monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 16 mars 2016, et c'est l'émission numéro 93. Christophe Rollin au micro, Gérald est ici, Isa également, peut-être interviendra-t-il, et notre invité, ah, allez, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, il n'est pas présent matériellement, il n'est pas présent physiquement, il s'agit de Martin Barnier, qui par téléphone tout à l'heure, sur les coups de la demi à peu près, vers 2h30, 14h30, nous parlera de ce... Comment appeler cela? Une sorte de rétrospective cinéma muet. Ça se tient à l'Institut Lumière. C'est la semaine prochaine. Ça commence le 19. Et ça, non, ça commence cette semaine, ce samedi 19 mars, et ça se termine la semaine prochaine. Ça ira jusqu'au mercredi 23 mars avec différents films. Les Ailes, par exemple, de William Wellman, ou bien Regeneration de Raoul Walsh, et surtout L'Aurore de Friedrich Murnau. Ciné-concert pour tous ces films, c'est-à-dire la musique sera jouée. Et donc, pour en parler plus précisément, Martin Barnier tout à l'heure, professeur d'université, et peut-être nous brossera-t-il un peu son parcours, pour indiquer qui il est et ce que vont être ces journées de rétrospective cinéma muet. Voilà. Pour l'émission, pour le reste, eh bien, des annonces. Voilà. On va discuter aujourd'hui. Nous ferons relâche le mercredi 23 mars prochain. Nous nous retrouvons le mercredi 30. Donc voilà, on va bavarder. Isa participera. Gérald aussi feuillette différentes choses. Ça va être très bien. Nous commençons avec quelque chose en rapport avec le cinéma. C'est Gérald qui a programmé. Nous verrons de quoi il s'agit. Vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire sur Radio Canu, c'est-à-dire à Lyon, c'est le 102.2 de la bande FM. Et si vous le faites plutôt sur Internet, ce qui est très bien également, c'est sur radiocanu.org.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère. Et tout le public en frémissant se passillonnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme le jour. Blonde, 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 blonde comme l'amour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle, obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Gare, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui m'accompagne au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai dégoté une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu Cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et l'on voit encore comme autrefois des tas de cow-boys sans foi ni loi et des justiciers qui viennent fourrer leurs gros pieds dans le plat. Gare, 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 Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il tire une balle dans un couton de pain. Gare, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, souviens-toi, on est resté 1 an.
C'était quoi ça exactement, Gérald? Qu'est-ce que...
C'était un peu téléphoné comme chanson. Bonjour à tous et bonjour chers auditeurs,
ah oui,
auditrices.
Bonjour Gérald, bonjour Isa.
Bonjour.
C'était le cinématographe, mais chanté par Mouloudji.
Ah, d'accord.
Extrait de l'album Jacques Canetti, 100 chansons, Boris Vian, avec 4 CD, dans lequel je puise régulièrement.
Non, mais la transition est quand même magnifique, parce que tu dis que c'est téléphoné, c'est en rapport avec notre invité que nous aurons tout à l'heure, Martin Barnier, par téléphone. Il n'a pas pu se libérer cet après-midi, c'est un peu ma faute. J'aurais dû prévenir avant l'Institut Lumière, mais si, on le dit comme ça. Écoute, on a du temps aujourd'hui, alors évoquons les choses. Voilà, on s'y est pris trop tard, parce que d'ailleurs, on lui en parlera, on demandera à Martin Barnier, ce cinéma muet donné à l'Institut Lumière de ce samedi 19 jusqu'à mercredi 23 mars. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup entendu annoncer, peut-être c'était un peu discret ou je sais pas. Non, toi tu as vu des affiches dans Lyon?
Il faut être abonné à la mailing list. Ouais. Crouler sous les mails d'informations de toutes sortes d'événements culturels. Donc ce cinéma muet, oui, c'est le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23 mars 2016 à l'Institut Lumière. Alors une rétrospective pas vraiment, mais une bonne sélection de films muets, plus ou moins connus d'ailleurs. Il y a une conférence sur Alice Guy ou Alice Guy, si elle est américaine ou pas. Je ne sais même pas comment on dit. Aussi, la première cinéaste femme, Alice Guy ou Guy, une conférence le mercredi 23 mars à 19h. On a le programme sous le nez. Et puis des grands classiques, hein, le journal d'une jeune fille perdue de Pabst, 1929, 1h44, accompagné au piano par Raphaël Chambouvet. Il y a un cycle de plusieurs conférences. Puisque notre invité donnera lui-même une conférence le lundi 21 mars à 19h. Une introduction à l'histoire du cinéma muet, donc par Martin Barnier, professeur en études cinématographiques à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste des débuts du cinéma.
On peut même indiquer entrée libre, avec
retrait
tout
nécessaire
même
d'un ticket.
Retrait nécessaire d'un ticket.
Et puis il y aura Dessiné Concert, Queen Kelly d'Eric von Stroheim, Régénération de Raoul Walsh.
Mais en fait, je crois bien qu'ils sont tous donnés en...
Qui est un bon polar, très bon polar.
Tous ces films sont donnés avec un accompagnement oui, musical qui sera fait sur scène,
le
en direct.
Le cinéma muet n'a véritablement jamais existé. Monsieur Martin Barnier en parlera mieux que nous tout à l'heure au téléphone. Mais le cinéma a toujours été sonore ou musicalisé, en fait. Et même commenté par ce qu'on appelle, comme les vendeurs de foire qui essaient de vendre leur casserole, le fameux bonimenteur. Donc toutes les séances de Méliès, des premiers cinémas et autres premières séances de cinéma étaient toujours accompagnées d'un pianiste et d'un bonimenteur qui racontait les images, expliquait, lisait les intertitres, etc. Alors, il n'a jamais été, à proprement parler, sonore. Il devient sonore, je crois, aux alentours de 1927. Et le premier film, et d'ailleurs c'est le musicien de jazz, il me semble, dans ces années-là.
Nous questionnerons Martin tout à l'heure pour des précisions sur les dates.
C'est le chanteur de jazz.
Pardon.
Je crois que c'est le chanteur de jazz.
Le chanteur de jazz, merci.
1927.
Voilà, merci alors, pour la précision.
On peut peut-être l'indiquer un instant, ou alors on le fait dans quelques secondes. Qui est donc ce Isaac que nous entendons parler on ne l'avait pas forcément annoncé dans les émissions précédentes. Ça va être une nouvelle participation, un nouvel œil apporté à l'émission, un nouveau regard. Parfois
il va se présenter lui-même.
Parfois un relais technique. Peut-être pouvons-nous terminer sur le cinéma, et puis ensuite nous questionnons Isaac, et puis nous remettrons
donc,
un peu de musique.
Murnau, comme
ben voilà,
dit.
Ils vont tous être donnés avec un accompagnement musical. Il y aura donc au piano Raphaël Chambouvet pour plusieurs films, pour l'Aurore notamment, pour aussi pour quel autre film encore?
Pour les ailes, ce sera à l'orgue.
Je m'apprêtais à terminer. Il y a quand même une idée dans le propos que je tiens. Donc, au piano, Raphaël Chambouvet jouera pour l'Aurore ainsi que pour le journal d'une fille perdue. Et pour les ailes, ce sera en revanche un organiste, Thierry Esquèche, qui il y a quelques années a été organiste et je crois également compositeur en résidence à l'Orchestre National de Lyon. Et puis pour Regeneration ainsi que Queen Kelly, c'est un nouvel accompagnement au piano, mais par un autre pianiste, Romain Camiolo. Bref, vous pourrez, auditeurs, constater tout ce que nous vous disons. Ben, vous rendant à l'Institut Lumière, ou alors en feuilletant cette jolie brochure. Elle est bien, cette petite brochure.
Très beau programme.
Petit flyer qui indique donc tout pour ce samedi 19 mars jusqu'au mercredi 23. C'est un nouveau rendez-vous. Ah, rendez-vous, donc il y aura peut-être d'autres éditions les saisons à venir, les années à venir. Un nouveau rendez-vous à l'Institut Lumière pour découvrir les sources du cinéma, conférences, projections, ciné-concerts et copies restaurées en compagnie d'amoureux et de spécialistes du cinéma muet. Nous en reparlerons dans pile 15 minutes à peu près avec Martin Barnier que nous aurons par téléphone. En attendant, on cuisine un peu Isa. Oui, non, c'est intéressant, c'est une figure. Je vous en prie, Isa, que pourriez-vous dire pour vous présenter un peu vous, la radio, vous connaissez ça?
Ouais, alors moi je vais me présenter. En fait, je suis étudiant en formation radio. En fait, je fais une formation radio au Studio M, donc je connais un petit peu effectivement la radio. J'ai fait avant ça une licence de cinéma, donc du coup, d'où la référence.
Le chanteur de jazz. Hein.
Chanteur de jazz.
Il date de quand ce film alors? C'est quoi?
1927.
27, pile. Très bien. Et donc c'est le premier qui il est intégralement parlé, ou ce sont certains moments
Il y a quelques parties en fait qui sont parlées. Il y a il y a quelques minutes, on va dire, sur l'ensemble du film. Il est pas vraiment parlé, mais il y a quelques minutes, et entre guillemets, c'est le premier film qu'on considère comme étant parlant, quoi.
Et surtout musicalisé en direct, ouais, avec les vrais musiciens de jazz et les chansons en direct, quoi.
Ouais. Donc une licence en cinéma, vous disiez.
Un master en finance aussi. Donc du coup, voilà. Et effectivement, je fais de la radio depuis cette année au Studio M, qui se trouve à Limonest, qui est une commune qui est à côté de Lyon.
Il faudra que nous mettions le lien, parce qu'il y a une émission que vous animez, je crois, les lundis.
Le Midi au Studio.
C'est le lundi, c'est ça ?
Non, qui est le mercredi et le vendredi.
Mercredi et vendredi, entre midi et 13h. Midi 13h. Et alors, c'est également comme spectaculaire, c'est podcastable, enregistrable, on peut le récupérer.
On met les émissions sur YouTube.
Ah, ben alors, oui, c'est vrai.
Ouais, donc elles sont...
Filmées.
Elles sont pas filmées.
En webcam, c'est la grande mode.
Elles sont pas filmées parce qu'on a pas. Son. Parce qu'en fait, pour filmer, il faut avoir des autorisations de la part de l'établissement. On n'a pas encore obtenu les.
Ah oui, puis droit à l'image.
Je crois, Gérald, que tu connais ça. Tu sais que YouTube ne peut diffuser que du son. On n'est pas obligé de montrer des images. Il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas moi, des conversations téléphoniques qui sont seulement diffusées et non pas filmées. Qu'est-ce qu'on peut se dire encore, Isa? Donc manifestement, vous allez être avec nous, ça va être possible jusqu'à fin d'année, juin, juillet,
ouais,
peut-être.
Ouais, ça pourrait se faire. Ouais, jusqu'au mois de juin à peu près.
Alors nous préparerons ensemble des interviews, je ne sais quoi. Enfin, on verra, et même peut-être Gérald, peut-être Isa.
Des sons venus de l'extérieur, ça serait sympa de temps en temps, non?
Ouais.
Et peut-être
ça peut se faire.
Ah ouais, des reportages, des chroniques
et des reportages.
Ouais,
avec des viendrait ici, ça serait bien. Ça.
Avec des H4.
Tout à fait.
Ah, quand les invités nous lâchent.
Est-ce que Isa a un H4? Ouais, c'est ça.
Un H4, j'en ai pas
H2,
moi perso.
Alors c'est quoi? Ce sont les noms des micros.
Les H4, ouais, c'est pour enregistrer. Par contre, j'en ai pas. Enfin, on en utilise en cinéma, notamment pour la prise de son. Mais moi, je n'en ai pas personnellement, non.
Mais à l'école, il est peut-être possible de mettre la main sur... on peut les emprunter.
Par contre, il faut certainement signer des chartes. Il faut que je vois avec l'établissement.
Gérald, on va faire ça, on va se débrouiller. Ouais, puis Isa ira nous capturer du son un peu partout. Et puis on diffusera des pastilles, ou je ne sais pas comment appeler ça, des chroniques d'Isa. Et puis comme ça, on pourrait faire une sorte de rendez-vous régulier. Rendez-vous, j'y pense aussi. Les prochaines émissions à venir, la semaine prochaine, relâche. Pause. Le mercredi 23 mars, c'est comme ça. Arrivée du printemps, donc pause. Nous nous retrouvons le mercredi 30. Je l'ai déjà, Gérald, annoncé sur le blog. J'ai annoncé une vox-thérapeute. C'est assez étrange comme nom. Agnès Auger, grande spécialiste, le site, il a bien un site à son nom. Enfin, tout se trouve sur le blog. Et puis, nous devrions nous retrouver une dernière fois avant une nouvelle petite pause. Une pause également pour reprendre du souffle avant la fin de saison. On se retrouve le mercredi 6 avril. Qui pourrait être là? Denis Lavant, un retour. Il sera à l'affiche des Célestins pour les Faux-Borées de Scapin ou bien autre chose. Il est question peut-être l'Institut Lumière. Il y a des choses qui vont se préparer.
Planning est encore à travailler.
L'Institut Lumière. L'Institut Lumière, l'auditorium, on le retrouvera normalement à la fin avril pour parler d'une sorte de ciné-concert Matrix qui sera donné sur trois soirées, je crois, les jeudis 28, vendredi 29 et samedi 30 avril. Ça, c'est intéressant. Ça revient à ce dont nous sommes en train de parler, cinéma et musique. Bref, je suis en train de bavarder là. Je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'on remet un peu de musique peut-être, Gérald?
Oui, mais pour finir avec pour continuer avec le cinéma muet du festival mi-mars du 19 au 23, il ne faut pas oublier justement par rapport au cinéma muet que le samedi 19 mars, ça fait plusieurs années qu'on retourne les sorties d'usine, premier film de l'histoire du cinéma. Donc pour tous, en entrée libre sur inscription de 10h30 à 18h, tournage toutes les demi-heures. Donc vous pouvez venir habillé tel que vous êtes, c'est-à-dire de manière contemporaine. Et le jeu est de retourner les sorties d'usine d'usine Lumière. Et c'est pas quand même pour être le premier film.
Mais voilà,
du cinéma,
dis ce qu'il en est.
Rivalité, on pourra parler d'ailleurs, puisque comme dans toutes les inventions, il y a toujours des rivalités. Et là, en l'occurrence, c'est une rivalité franco-américaine, puisque comme le dit très bien Claude Chabrol, président d'honneur toujours, je crois, de l'Institut Lumière.
Attention, Bertrand Tavernier peut-être plutôt, non?
Ah oui, oui, oui. C'est Bertrand Tavernier.
Oui,
c'est
Claude Chabrol. Claude Chabrol décédé, il ne peut plus rien dire.
Donc Bertrand Tavernier disait lui-même que Edison avait inventé la télévision, puisqu'il, dès 1893, il invente une machine qu'on peut voir à l'Institut Lumière, mais qui n'est destinée qu'à une seule personne. Une machine qui entraîne un film de 1 minute, où on voit une image animée, mais on doit se pencher dans une sorte de boîte. Alors ça, ça serait le prototype de la télévision. Mais Bertrand Tavernier insistait sur le fait que ce sont vraiment les Frères Lumière qui inventent le cinéma au sens de séance publique dans l'obscurité collective.
Ouais, effectivement, techniquement parlant, ouais, c'est les Frères Lumière, effectivement.
Auguste et Antoine, en 1895.
Attention, il y a beaucoup de rivalité, de concurrence, même pour la photographie. Ouais,
je crois bien que c'est 1895 parce que 1895, c'est le numéro de téléphone.
Mais bon, Edison a fait breveter son truc en 93. Puis après, bon, il y a du proto-cinéma avec Muybridge, l'américain, et le français Jules-Étienne Marais. Enfin, l'histoire du cinéma est complexe, ouais, vaste. Et l'histoire du cinéma d'animation est encore plus complexe parce qu'on peut considérer que l'animation d'un dessin avec plateau et avec la machine au musée Grévin était une forme de cinéma aussi, avec Colombine et Pierrot et Colombine.
Correctement, effectivement, oui. Effectivement.
Et c'était les années 90, peut-être même.
Le numéro de téléphone de l'Institut Lumière que je recherche, de toute façon, enfin, je ne vais même pas le rechercher, je le connais par cœur, 04 78 78 18 95 pour cette année d'invention du cinéma. Si vous souhaitez contacter pour avoir des renseignements, Gérald, oui, encore
donc
une précision.
On est quoi cette programmation muette? Il y a donc on retourne les sorties d'usine, hein, le samedi 19 mars, entrée libre sur inscription 10h30 à 18h. Et il y aura aussi la 8e Ciné-Brocante, Cinéma et Photographie de Lyon, édition de printemps 2016, entrée libre aussi. Le samedi, plusieurs éditions, samedi 19 mars de 11h à 19h, dimanche 20 mars de 9h à 18h, rue du Premier Film, toujours au même endroit.
Bon, on écoute quelque chose, oui, peut-être...
On va écouter une petite piste, on a parlé d'orgue peut-être avec...
Thierry Esquèche.
Cet organiste Thierry Esquèche, dont on pourra lire la biographie, et j'ai trouvé un truc un peu bizarre, une nuit au Gaumont Palace, par l'organiste aussi qui s'appelle Tommy Desserre, un disque un peu bizarre et un peu rare. Tommy Desserre a choisi d'enregistrer pour nous les titres que son public aimait entendre à l'entracte. Ce disque est l'hommage que nous rendons aujourd'hui à un authentique musicien, Alain Vilain. C'est un CD un peu improbable. Donc, on va écouter un petit morceau très court à l'orgue, que je te laisse le choix de choisir.
Oh bah, peut-être, je t'en prie, non, non. Il y a non, non.
1914, ça serait bien, Missouri Waltz de Logan. On a des films muets, justement, Body and Soul. On a The Man in Love, 1928, de Gershwin, ou alors Night and Day, 1932, Cole Porter, un classique, la première.
Cole Porter, c'est du jazz, hein, c'est ça? Parce que c'est en deux mots, hein. Cole Porter, un quoi? Saxophoniste? Non? Trompettiste? Pianiste? On va voir ça. Nous sommes toujours sur Radio Canu, et nous sommes à quoi? Allez, je donne l'heure, 14h23, et puis voilà, on parle de cinéma pour l'instant, parce qu'on va continuer dans quelques minutes. Martin Barnier, professeur d'université à Lyon 2, professeur d'études cinématographiques, va nous présenter plus précisément, on l'a déjà un peu fait, cette semaine, ou ces quelques jours de cinéma muet qui auront lieu les 19, 20, 21, 22 et 23 mars à l'Institut Lumière. bien, on a tout à fait entendu de l'orgue et on se serait presque cru à l'Institut Lumière le samedi 19 mars prochain. Non, ce ne sera pas le samedi, c'est plutôt le dimanche 20 mars à 16h pour Les Ailes de William Wellman qui sera accompagné, un film accompagné à l'orgue par Thierry Esquèche. Puisque nous parlons dans cette émission spectaculaire aujourd'hui, 93e, on approche de la 100e, nous parlons aujourd'hui de cinéma, puisque Martin Barnier sera par téléphone dans quelques instants pour parler plus précisément, pour évoquer ce que va être ce nouveau rendez-vous, annonce l'Institut Lumière de cinéma muet.
Nous n'étions pas au...
Non, du tout. Lumière, mais on entendait de l'orgue, voilà, c'est ça.
Nous
c'est
étions
pour ça
en train d'écouter un extrait, un reporter, Night and Day, du dernier récital du musicien de l'entracte, qui eut lieu le 26 mars 1971 à Paris, place Clichy, dans l'un des plus grands cinémas du monde, déjà déserté et voué à la démolition. On écoutait donc alors l'organiste Tommy Dessert, qui était né à Dieppe le 18 février 1907. Je vous raconte sa bio parce que c'est intéressant, c'est étrange. Il voulait être marin, il sera organiste. Après son passage au conservatoire de Paris dans la classe de Marcel Dupré, il se met à voyager pour gagner sa vie tout en jouant. En 1928, lors d'une première visite en Amérique, il découvre les grands noms du jazz, Duke Ellington, George Gershwin, et aussi l'orgue de cinéma. Il apprend la technique des glissandos de Jess Crawford, Lee White et Fats Waller, avec lesquels il se lie d'amitié. En 1932, à 25 ans, il s'installe au clavier de l'orgue monumental du Gaumont Palace à Paris. Jusqu'en 1937, il se partage entre l'église du Sacré-Cœur le dimanche et le Gaumont où il officie tous les jours. Il écrit des musiques de films et enregistre pour Radio Paris de 48 à 62. Il reprend ses fonctions au Gaumont Palace jusqu'à la retraite. Il meurt le 5 septembre 1989 à Assigny, près de Dieppe. Voilà.
Bon, c'est vraiment très complet. Très bien.
Il permet d'enchaîner avec... les fameux musiciens du festival
petites biographies sont données.
Deux pianistes et un organiste. Donc l'organiste, c'est Thierry Esquèche, si on prononce comme ça. Compositeur. Organiste et improvisateur, il est une figure unique de la scène musicale contemporaine et un représentant majeur de la nouvelle génération de compositeurs français. Son travail a été récompensé par 3 victoires de la musique. Il accompagne depuis de nombreuses années les films muets à l'Auditorium de Lyon. Et on est bien placé pour le savoir, puisque l'Auditorium de Lyon a la chance d'avoir un orgue magnifique, dont je crois, Christophe, tu avais reçu la restauratrice, la factrice.
Alors, c'était Claire Delamarche qui est plutôt conservatrice et le facteur lui était venu aussi. Il était à ce moment-là à Lyon parce qu'il est... faudrait réécouter l'émission. Était-il parisien ou je ne sais plus.
Trouvé sur les archives du blog.
Émission numéro 5 ou 6, hein, c'était au tout début. Mon Dieu, on approche de la 100e dans quelques temps. Et oui, l'orgue est un très bel orgue. D'ailleurs, je me demande, le film sera bien donné dimanche... Non, voilà, c'est bien ça. Dimanche 20 mars, ce sera bien donné à l'Auditorium à 16h. Ce ne sera pas l'Institut Lumière, alors que les autres films, oui. Le samedi 19 mars, la soirée d'ouverture se fait bien à l'Institut Lumière pour l'Aurore. Et puis, l'autre ciné-concert du lundi 21 mars se fera bien aussi à l'Institut Lumière. Mais pour ce qui est de ce concert exceptionnel avec un orgue, eh bien, le dimanche 20 mars à 16h, c'est Les Ailes de William Wellman. Ce sera bien dans la salle Maurice Ravel avec le bel orgue dont Thierry Esquèche jouera sûrement très bien puisqu'il le connaît cet orgue.
2h24, 1927.
Il a été
copié restauré.
Organiste en résidence et compositeur aussi.
L'autre, c'est l'autre pianiste, donc Raphaël Chambouvet, pianiste et compositeur. Raphaël Chambouvet a collaboré à plusieurs albums, travaillé pour le théâtre avec Peter Brook pour le costume ou Emmanuel Mérieux pour De Beaux Lendemains et pour le cinéma sur des courts-métrages. Vous pourrez l'entendre à l'occasion de la diffusion le samedi 19 mars. C'est bien le samedi 19 mars à 20h, en la soirée d'ouverture, ciné-concert sur l'Aurore de Murnau. Donc un grand classique magnifique, c'est un chef-d'œuvre total ce film, en copie restaurée en plus, d'une beauté plastique hallucinante, qui n'a pas pris une ride ce film. Il l'avait déjà donné à l'Auditorium de Lapardieu il y a 3-4 ans peut-être. C'était superbe, un grand moment. Et il accompagnera aussi un deuxième film qui est...
Le journal,
non, d'une jeune fille perdue avec la magnifique Louise Brooks. Encore un grand classique, 1929, 1h44 de Pabst.
Et la dernière biographie qui est indiquée sur ce petit dépliant, c'est celle de Romain Camiolo.
Oui, là. Donc un étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon dans la classe de musique à l'image. Romain Camiolo a accompagné plusieurs ciné-concerts à l'Institut Lumière, dont J'accuse d'Abel Gance, et compose pour des films d'animation d'école. On a dû l'entendre. Sans doute dans différents films, peut-être de La Poudrière à Valence ou d'autres.
Allez, je crois Gérald, qu'il est l'heure.
Et il accompagnera qui ?
Il accompagnera un film, un ou deux. C'est Regeneration de Raoul Walsh et puis aussi, je crois, Queen Kelly. de Erich von Stroheim les lundis 21 et mardi 22 mars.
Je crois qu'il beaucoup de musique, mais c'est normal quand il s'agit de cinéma muet.
Il est temps d'appeler Martin Barnier. Donc nous allons procéder à cet appel, nous allons le joindre. Et puis en attendant, eh bien écoutons. C'est super ce que tu m'as remis là à l'instant, Gérald, de Marcel Carnet. Écoutons, on va commencer par le
cinéma
Hôtel,
sonore,
Hôtel du Nord, musique, dialogue et ambiance. Oui, mais alors.
Certains ont eu du mal à passer le cap.
Pour le coup, c'est.
Charles Chaplin, par exemple.
C'est le tout début, c'est ça, là, je crois.
Non, Amouzou.
Beaucoup de mal à passer le cap.
Bon. D'ailleurs, c'est pas un de ses meilleurs films, c'est le dernier, comment il s'appelle, j'ai oublié. Oui. Charlie Chaplin est le grand cinéaste muet.
Muet, ouais. Et ouais, il a pas du tout réussi à passer le cap, effectivement, du cinéma parlant, parce que forcément, au niveau de la gestuelle, forcément, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'une fois que ça devient parlant, forcément, les mimiques n'ont plus beaucoup d'intérêt.
C'est ça.
Auditeur, quelle chance vous avez, en fait. Dans quelques instants, Martin Barnier pour nous parler de ces jours du festival de cinéma muet. Et puis à l'instant, vous entendez Isa, qui est très au courant aussi de ces questions de cinématographie, de cinéma. Appelons Martin, et puis en attendant, écoutons donc Hôtel du Nord, des musiques, dialogues et ambiances. Et puis voilà, c'est tout, 14h32 sur Radio Canus, et c'est bien, on est comme l'horloge parlante, on indique quelle heure il est.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même. Pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Ou bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Ça continue encore, Gérald, je crois, comme ça, pendant quelques instants.
3:26, dialogue et ambiance de Hôtel du Nord, avec les voix de Arletty, Louis Jouvet, musique de Maurice Jaubert.
Bon, Gérald, il faut à nouveau que nous disions bonjour.
Oui.
Bonjour, Martin Barnier. Martin, êtes-vous bien avec nous? Non, alors, nous n'avons pas tout à fait Martin. Comment trouver Martin? Martin devrait être là. C'est
une première. Désolé.
Mais non, c'est pas une première. On l'avait déjà fait, Gérald.
Les aléas techniques. Pas souvent.
Martin, êtes-vous présent? Êtes-vous là?
Demande.
Ouais, on va se débrouiller. Auditeur, on va réécouter encore d'autres choses. Et puis, promis, on retrouve Martin dès qu'on peut bien lui mettre la main dessus.
Il va faire beau.
Bien. Maintenant, c'est fini.
Quoi donc?
L'Hôtel du Nord.
Thank you.
voilà, Martin.
Et de la musique.
Martin, nous sommes tous de retour ensemble, là, je crois. Gérald, oui, on tient Martin, là.
Ah, excusez-nous, chers auditeurs, pour ce petit incident technique. Heureusement, il y a quelqu'un de très, très compétent qui est venu nous aider dans les studios.
Allô ?
Ah, Martin, est-ce que vous nous entendez bien, là ? Oui, ça peut marcher.
Je vous entends très faiblement, mais...
Ah, c'est assez faible.
Oh. Mais si moi, vous m'entendez...
C'est le principal, on vous entend très bien, nous.
Ok.
Pourriez-vous, donc voilà, grande question qu'on lance toujours en début d'émission, pourriez-vous vous présenter un peu et puis présenter ce que va être cette sorte de rétrospective, ce rendez-vous à l'Institut Lumière, les samedis 19 jusqu'au mercredi 23 mars ?
D'accord. L'Institut Lumière m'a demandé de faire une conférence générale, introductive, sur l'histoire du cinéma muet, qui aura donc lieu lundi prochain à 19h et qui sera suivi d'un film qui est Red Generation, le film de Raoul Walsh, qui est le premier long métrage de Raoul Walsh, qui est un film de 1915, une sorte de film policier. Moi, j'ai un parcours de prof d'histoire-géographie en collège et en lycée. Ensuite, j'ai passé une thèse en études cinématographiques sur la généralisation du cinéma parlant, qui concernait essentiellement les années 1926 à 1934. Et à la suite de cette thèse, j'ai été recruté comme maître de conférence à l'Université Lyon 2. Donc j'ai enseigné l'histoire du cinéma depuis la rentrée de septembre 1997 à Lyon 2. Et j'ai continué de travailler. Mes recherches ont été publiées sous la forme d'un livre pour la thèse qui s'appelle « En route vers le parlant », qui explique donc comment s'est fait cette généralisation progressive du parlant, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas du jour au lendemain qu'on est passé au parlant, mais ça s'est fait par étapes, petit à petit. Et d'ailleurs, les directeurs de salle n'étaient pas très favorables au passage au parlant parce que ça leur demandait de s'équiper, de changer totalement le matériel, et donc c'était un investissement qui était un petit peu difficile pour certaines salles, notamment les plus petites salles, ce qui explique pourquoi on a continué à passer du muet pendant plusieurs années, partout dans le monde. J'ai travaillé ensuite sur le film muet lui-même et son accompagnement sonore dans les salles. On a bien sûr des musiciens, comme il y aura pendant cette rétrospective à l'Institut Lumière. Chaque film sera accompagné par un pianiste ou par un organiste dans le cadre du film L'Aurore, qui sera présenté à l'Auditorium de Lyon le samedi 19 mars à 20h. En fait, ça dépendait vraiment des salles. Il y avait des salles dans lesquelles pouvait avoir juste un phonographe. Il y avait des salles ou des tentes de forains dans lesquelles il n'y avait absolument pas d'accompagnement sonore, quel qu'il soit. Il y avait des bonimenteurs, plutôt jusqu'à la guerre 14-18, mais dans les toutes petites salles ou chez les tourneurs forains, ça continuait jusque dans la période de la fin des années 20. Et donc, bonimenteurs, conférenciers pouvaient accompagner à la voix les films et expliquer ce qui se passait dans le film ou donner des indications historiques, des compléments sur... si c'était l'adaptation d'un livre de Zola, ils expliquaient qui était Zola, par exemple, le contexte, des choses comme ça. Et puis, il y avait également des chanteurs qui venaient. Alors ça, c'est très peu connu. J'ai expliqué ça dans mon livre « Bruit, cri, musique de film, les projections avant 1914 », où je parle de tout ce qui s'est passé dans les salles en France avant 1914 pour accompagner les films. Notamment, j'ai beaucoup de pages sur Lyon. Et il y avait, par exemple, à Lyon, dans certaines salles, des chanteurs de l'opéra qui venaient pour certains passages du film, faire un chant qui correspondait à ce qui était en train de se passer dans le film. Donc non seulement un orchestre, mais aussi un chanteur, parfois un chanteur d'opéra, parfois juste des chanteurs amateurs dans les petites salles. Donc c'était extrêmement varié en fait l'accompagnement. Et parfois donc même pas de pianiste, comme je disais. Mais on avait aussi des bruiteurs. Il y avait des gens qui étaient spécialisés pour faire un accompagnement bruiter les coups de feu, les animaux qui passent, les courses de chevaux, etc. Très souvent, c'était le batteur, le percussionniste dans l'orchestre, mais ça pouvait être un bruiteur qui venait avec sa petite valise et plein de matériel pour pouvoir faire les sons correspondants. Et enfin, chose assez peu connue encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de films qui étaient synchronisés à partir de la période 1906-1907. Beaucoup de films sont avec des synchronisations mécaniques, avec des phonographes qui sont faits sur disque. On avait le son du film et c'était vraiment enregistré exprès pour accompagner un film qui en général était un film chanté, donc un chanteur populaire, Paulin, Dranem, était en train de mimer sa chanson sur l'écran et on passait le disque qui correspondait et ça pouvait fonctionner parfaitement. C'était le cas notamment dans la salle Scala à Lyon, qui était ensuite devenue les 8 nefs et qui actuellement vient juste d'être fermée, alors que c'était une grande salle en 1912 qui avait 1500 places et dans laquelle on pouvait écouter chaque semaine des enregistrements avec le système Gaumont. Et ça fonctionnait très bien d'après les articles de l'époque. Donc c'était extrêmement varié ce qu'il pouvait y avoir comme accompagnement pour les films dits muets, mais parfois ils étaient passés dans le silence. Donc, j'ai travaillé sur ça dans le cadre de mes recherches et c'est ce que j'ai donc publié dans le livre qui s'appelle « Bruit, cri, musique de film, les projections avant 1914 » aux presses universitaires de Rennes en 2010. Et puis j'ai continué mes recherches sur des domaines un petit peu différents puisque récemment j'ai publié un livre sur le cinéma 3D et qui a en fait une très longue histoire. Alors on parle bien sûr, c'est avec une collègue de Paris 3, on parle de la 3D actuelle en numérique, mais on a bien sûr fait une rétrospective de tout ce qui s'était passé depuis le 19e siècle. Or il y a des projections en relief stéréoscopique avec des lanternes magiques à la fin du 19e siècle. Il y a un film en relief en 1915. Il y a des films en relief de longs métrages dans les années 1920. Il y a Louis Lumière qui fait du cinéma en relief en 1935-36 avec des films qui vont passer dans toute la France, dans les grandes salles, dans les grandes villes de France en 1936. Donc l'histoire du relief est très très longue aussi et on connaît surtout l'épisode des années 50 où le système stéréoscopique s'est beaucoup développé aux États-Unis avec des dizaines de films qui ont été tournés à ce moment-là. Et puis donc ça a continué. Alors l'intérêt justement de revoir l'histoire du cinéma, c'est de se rendre compte que les inventions, elles ne sont pas subites, elles ont beaucoup de d'antécédents et que c'est une continuation de recherches, d'essais, d'investissements qui font qu'ensuite il y a une généralisation. Donc c'est sur ces aspects-là que je travaille généralement.
Vous ne nous indiquez pas toute la matière de la conférence que vous tiendrez le lundi 21 mars à 19h, parce que c'est vraiment très intéressant tout ce que vous nous indiquez. Vous enchaînez en plus sans même qu'on ait à poser de questions. Tu avais une remarque peut-être, Gérald, à faire
ou c'est... Pas du tout. Je vois, j'ai votre CV sous le nez, très consistant. Vous êtes dans la recherche, dans beaucoup de travaux divers et variés. Est-ce qu'il y a encore des champs de recherche dans ce domaine-là par rapport au premier cinéma, au muet, au son, etc.?
Oui, alors on est toujours en train de faire des découvertes, hein. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, jusqu'à il y a très peu de temps, je dirais moins d'une dizaine d'années, on pensait qu'il n'y avait pas eu de bonimenteur ou de conférencier en Italie parce qu'on n'avait pas trouvé d'article qui parlait de ça. Dans les colloques auxquels je participais, où les historiens sont spécialisés sur l'accompagnement sonore des films, eh bien, on disait chaque fois, bon, pour l'instant, on n'a toujours pas de chercheur qui a trouvé des mentions de présence de conférenciers accompagnant les films muets en Italie. Et puis, finalement, je pense qu'il y a 5 ans, il y a un chercheur qui a vraiment bien, bien fouillé, qui a trouvé dans les archives la présence de conférenciers, donc il y en avait aussi en Italie. Ça veut dire qu'il y en avait dans tous les pays du monde. Les plus célèbres, ou disons peut-être les plus importants du point de vue économique, étaient les Benchi, c'est-à-dire les bonimenteurs japonais, qui accompagnaient les films et qui étaient beaucoup plus célèbres que les titres des films ou les réalisateurs des films. C'est-à-dire que sur l'affiche qui était apposée devant le cinéma au Japon entre les années 1900 et le milieu des années 30, parce qu'ils ont continué à faire leur métier jusqu'au milieu des années 30, eh bien le nom du Benchi était écrit plus gros que le nom du film. On venait voir un Benchi en train de faire son art plutôt qu'on de voir un film particulier. Donc ça montre que l'accompagnement du cinéma muet, il a été très important. Et même finalement, on pense que en partie, c'est l'importance des Benchi qui a fait que la généralisation du parlant n'a pas pu se faire tout de suite au Japon. Donc il y a des recherches qui se font continuellement sur ces questions. Et comme c'est quelque chose qui a été oublié pendant très longtemps, le fait que comment étaient accompagnés les films à la période du muet, eh bien c'est quelque chose pour lequel on peut toujours faire des découvertes, oui, absolument.
D'accord. En fonction des spécificités géographiques, historiques des pays concernés.
Et alors peut-être une dernière question pour ne pas vous retenir trop longtemps au téléphone, vous, et puis donc même une question, une sorte de transition. Vous êtes en train de parler du cinéma muet, puis également de cette généralisation du parlant. Concernant le premier film qui sera donné, L'Aurore, ciné-concert le samedi 19 mars à 20h, est-ce bien un film muet ou est-ce que déjà ça commence à être un peu parlant? Le titre original, il est indiqué sur la jolie brochure que j'ai sous les mains. Sunrise, A Song of Two Humans, une chanson de deux êtres humains. Je vous en prie, Martin Barnier, peut-être pour terminer cette riche et très intéressante présentation de ce rendez-vous du cinéma muet à l'Institut Lumière, des samedis 19 au mercredi 23 mars. Donc L'Aurore, ce film particulier.
Oui, alors sur L'Aurore, on peut effectivement préciser que le film sort en septembre 1927, et c'est produit par la Fox, qui a fait venir Murnau avec un très gros contrat pour que, justement, la Fox puisse bénéficier du nom de Murnau et de son aura en tant qu'artiste du muet. Et ils ont décidé d'investir sur ce film en produisant une bande son, une piste son on peut même dire, parce que c'est un système qui est différent de celui des Warner. En octobre 1927 pour The Jazz Singer, ils ont un système de son sur disque. En septembre 1927 pour L'Aurore, c'est assez peu connu, mais en fait il y a une piste son qui est faite avec des bruitages et avec de la musique, avec plusieurs sortes de musique d'ailleurs qui se superposent parfois, notamment dans la séquence où on a une sorte de rêve qui est montré par une femme qui dit il faut que nous allions à la ville, et on entend à la fois le thème musical qui est le leitmotiv qui correspond à la jeune femme, et en même temps la musique qui correspond au bruit de la ville, à un orchestre de jazz en train de jouer dans la ville. Donc il y a des superpositions musicales, il y a des bruitages de klaxons, il y a des bruits de moteurs, il y a même des écrit à certains moments, il n'y a pas de dialogue à proprement parler. Et donc on appelle ça un film sonore, ce n'est pas encore un film parlant, tout simplement parce que ils voyaient pas tellement l'intérêt de mettre des dialogues, alors que Fox savait très bien faire ça, puisque depuis plusieurs mois, ils avaient proposé les Fox Movie Town News, c'est-à-dire des actualités cinématographiques parlantes. Par exemple, on avait le discours intégral de Lindbergh quand il est revenu d'avoir traversé l'Atlantique et qu'il a eu un accueil triomphant à New York, pardon. Eh bien, il parle dans des micros et on entend parfaitement, c'est enregistré par les actualités Fox. Donc Fox pouvait enregistrer la voix, mais l'intérêt en septembre 1927, c'était plutôt d'enregistrer un orchestre et des bruitages. Et donc, c'est ce qui était prévu, et on peut toujours, aujourd'hui, dans les versions restaurées du DVD du film, on peut avoir l'écoute de cette piste son avec bruitage et musique. Alors, c'est pas ce qui va se passer pour le concert, le ciné-concert qui sera proposé le 19 mars à 20h à l'auditorium, où là, c'est accompagné par un organiste. Mais ça, c'est exactement ce qui se passait aussi dans la plupart des salles, parce qu'en fait, en septembre 1927, le film a été montré muet la plupart du temps, parce que très peu de salles étaient équipées. Seules quelques salles appartenant à la compagnie Fox pouvaient montrer le film dans les conditions pour lesquelles il avait été préparé. Mais il y avait une version qui circulait partout, qui était une version muette, pour laquelle il y avait l'accompagnement d'orchestre, je dirais habituel pour les grandes salles. Dans les grandes salles, il y avait un orchestre. Et puis dans les petites salles, eh ben, on passait, comme je disais, avec parfois juste un phono ou rien du tout parfois. Donc c'est très variable. Et le fait qu'on ait un organiste, c'est intéressant, parce que c'est aussi ce qui se passait dans beaucoup de salles aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un petit peu partout dans le monde, pas tellement en France, où il y a eu assez peu d'orgues de cinéma. Enfin, c'est ce qu'on sait pour l'instant, mais comme je disais, la période du muet est toujours à défricher, il y a toujours des découvertes qui peuvent être faites. Et donc, un organiste qui accompagne un film avec un jeu d'orgue particulier, avec même des bruitages à l'intérieur des orgues, qui sont des orgues qui étaient construits exprès pour les cinémas, qu'on a des orgues de cinéma, notamment la marque Wurlitzer proposait des orgues de cinéma, eh bien, c'était très courant dans les grandes salles. Donc, l'accompagnement ici proposé pour cette version muette de L'Aurore, il est très intéressant parce qu'on aura des improvisations par Thierry Escaich à l'orgue, et c'est une des façons dont le film a été présenté à l'époque.
Sur un orgue préparé, peut-être même.
Pardon ?
Sur un orgue préparé.
Alors un orgue préparé, non, je pense pas. Là, c'est un orgue de l'auditorium. C'est pas un orgue de cinéma. Il n'y a pas de bruitage à l'intérieur. Il n'y a pas de d'éléments particuliers. Il peut éventuellement faire des imitations à certains passages de bruit, disons le sifflement d'un train, la sirène d'un bateau, des choses comme ça. Ça, c'est possible et ça se faisait beaucoup à l'époque du muet. Mais sinon, c'était pas un orgue de cinéma là qu'on va entendre. Mais ça ressemble à une séance qu'on pouvait avoir. Aux alentours de 1927.
Une question de Isa, je crois, Martin, c'est un nouveau collaborateur. Isa, oui.
Oui, je voulais savoir, est-ce que vous essayez de vulgariser un peu le propos pour les jeunes, voilà, générations qui ne connaissent pas très bien le cinéma muet, qui sont pas vraiment au courant de ce qu'est le cinéma muet. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que ça soit assez accessible pour eux?
Oui, ben, de toute façon, la conférence que je vais faire à 19h le lundi 21 mars sera vraiment une conférence de vulgarisation pour que tout le monde puisse être initié au cinéma muet. Et puis sinon, ça fait partie des cours que nous faisons à l'université, donc dans le département d'art du spectacle en études cinématographiques, on a tout le temps des cours sur le cinéma muet. Et donc, les étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui découvrent des films qui datent des années 1900 ou 1920, et donc le cinéma muet continue d'être enseigné, bien sûr, pour tout le monde. D'ailleurs, il y a aussi des conférences dans le cadre de l'université tous âges, ce qui fait que les gens peuvent s'inscrire, quel que soit leur âge, à l'université Lumière, et dans ces conférences-là sur le cinéma, très souvent, on parle du cinéma muet, oui.
Eh bien, c'est vraiment très bien, Isa. Je vous remercie d'avoir pu permettre à Martin Barnier de rappeler la raison pour laquelle il sera partie prenante dans ce rendez-vous du cinéma muet, puisque vous participez par le biais de cette conférence, et puis vous serez présent pour voir ces films, non? Vous les connaissez peut-être par cœur, mais ça vous plaira de les revoir en copie restaurée, je pense.
Oui, merci.
Très bien. Peut-être, moi, j'ai une dernière question. On me propose de passer un CD de Charlie Chaplin. C'est l'introduction, je crois, plus ou moins. C'est le parlant commençant. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour clore les lumières que vous avez apportées à ce rendez-vous à l'Institut Lumière? J'ai sous les yeux Une journée de plaisir, Jour de paix, La rue vers l'or. Il y a aussi Les temps modernes, Les lumières de la ville, Dictateur 1940. Là, c'est déjà...
Les lumières de la ville, je vous conseillerais, parce que c'est 1931 et c'est un film dans lequel... Chaplin justement a pu enregistrer sa musique, alors qu'auparavant les films étaient accompagnés comme il le voulait par les directeurs de salle, tandis qu'en 1931, bien qu'il continue à faire un film muet, il fait enregistrer sa musique, et donc c'est exactement la musique qu'il avait voulu mettre sur son film qui va être diffusée à ce moment-là. Donc c'est le premier film pour lequel il a maîtrisé totalement la musique. On disait qu'il composait sa musique, en réalité il sifflotait, et il y avait des gens qui retranscrivaient ce qu'il était en train de siffloter, parce que lui n'écrivait pas la musique. Mais il a participé en tout cas à la création des musiques de ses films, et donc d'abord pour City Lights, Les Lumières de la Ville.
Eh bien, c'est l'ouverture du film que nous allons pouvoir entendre.
Et son passage au parlant a été douloureux, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y en a eu d'autres comme ça qui ont eu du mal à quitter le muet, sa gestuelle, son art du corps pour le sonore.
Non, Chaplin, c'est vraiment un cas exceptionnel. Après, il y a des acteurs qui ont été plus ou moins acceptés ou parfois refusés au moment du parlant. On leur disait « votre voix ne correspond pas », etc. C'était aussi un moyen... prétexte pour certaines compagnies pour éliminer un acteur dont ils voulaient se débarrasser parce qu'il était alcoolique ou qu'il avait d'autres problèmes.
Mais ça n'a pas été le cas de Jean Dujardin, qui lui s'en est très bien sorti avec un Oscar, je crois. C'était très bien pour des artistes. Enfin voilà, je me rends compte, Martin Barnier, que nous pourrions encore parler. C'est vraiment très bien. Moi, je vous le dis, je vous le déclare. Venez donc à l'émission spectaculaire, vous, Martin Barnier. Venez une prochaine fois, là, s'il y a une nouvelle publication, ou alors pour le rendez-vous, si l'Institut Lumière le repropose en 2017, il faudra à tout prix que vous veniez. Et puis, auditeurs, si vous souhaitez voir Martin Barnier et l'entendre parler du cinéma, c'est le lundi 21 mars à 19h à l'Institut Lumière. Il faut retirer son ticket, mais là, conférence est totalement gratuite. Oui, Gérald, un dernier mot?
Non, je voulais remercier Martin Barnier.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup. Nous écoutons les City Lights et puis nous vous disons, Martin Barnier, à une prochaine fois. Il faudra que nous nous revoyons. Merci encore.
Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci.
Allez Gérald, 3-4 minutes.
Pour... Les Lumières de la Ville, oui. 1931.
Merci à Martin Barnier de nous avoir signalé cette ouverture.
De Charlie Chaplin, même s'il a fait Classy Flotter.
Des annonces, puisque Pascal est arrivé, il y a différentes choses.
J'ai eu la chance d'aller voir Music for 18 Musicians, Steve Reich, partition ultra célèbre et magnifique, génial. Avec de la chorégraphie, c'était à l'Auditorium de Lyon précisément, on en parlait à l'instant, c'était il y a 15 jours, une semaine. Et alors je suis partagé puisque j'ai à la fois passé un très bon moment, à la fois parfois j'ai été gêné. Je vais tenter d'écrire un double texte, un pour et un contre sur le blog de Spectaculaire. Voilà. Mais c'était quand même un bon moment et un moment participatif avec tout ce que cela suppose d'intéressant et peut-être des fois de peut-être gênant ou on peut être frustré ou on peut être gêné par l'écoute musicale puisque c'est une musique hypnotique. Alors c'est tout le débat du participatif.
Mais la qualité sur scène,
la chorégraphie sur une musique.
La qualité sur scène y était. Les musiciens c'était.
Ah oui oui.
Les 18 musiciens.
La qualité était là.
Les 18 musiciens.
C'est une partition géniale donc de toute façon. Mais parfois justement à cause des chorégraphies qui se déroulaient dans la salle, sur la scène, partout, j'ai été gêné dans l'écoute de la partition. On va me traiter de rabat-joie. voilà.
Allez, ça c'est un moment passé. Qu'est-ce qui est à venir?
Alors qu'est-ce qui est à venir? J'invite les auditrices et auditeurs à se rendre au Musée des Beaux-Arts pour aller quand même découvrir. Un regard sur la scène artistique lyonnaise, puisque les collections d'art moderne et contemporain sont exposées actuellement au Mexique et les salles libérées sont maintenant l'occasion de montrer 100 ans de peinture lyonnaise, depuis la première toile de 1897-1900 jusqu'au peintre le plus contemporain qu'on connaît plus, comme les Giorda, les Schlöndorff qui est mort il n'y a pas longtemps, les Christian L'Hôpital.
Truffémus.
On a un brassage, les Truffémus, oui. Les années 50, les années 60.
Elsa Brugo aussi.
L'école surréaliste. Alors malheureusement, il y a des grands manques. C'est un regard qui ne se veut pas, qui n'est pas exhaustif d'ailleurs. Il aurait pu avoir Elena Brugo. Il aurait pu avoir Salvatore Guerrieri aussi, qui est un grand peintre lyonnais. Il y a forcément des oublis, forcément des lacunes. Donc j'y suis retourné une deuxième fois, j'ai fait le vernissage et il y a des choses à voir. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais que ça ouvre le regard. Il y a l'excellent Combes des Combes. Et c'est vrai que moi, j'ai flashé sur Combes des Combes qui reste un... Et puis Marcel Roux, un excellent graveur. Beaucoup de découvertes de paysages de la région et puis toutes les écoles y passent et puis des écoles spécifiques à Lyon comme le Zanzisme, comme les Ignares et voilà. Et tant d'autres choses à découvrir.
Tu sais qu'ils
vont
lancer...
Il n'y a pas de publication mais
ils vont lancer autre chose. Ils vont lancer autre chose.
Et puis il y aura bientôt un truc qui va être exceptionnel. Ouais. Donc ça commence fin mars.
25.
Autoportrait
vendredi
de Rembrandt
25
au selfie du 25 mars au 26 juin. Alors là, on aura des prêts et des collections qui viendront de différentes institutions.
On en parlera dans l'émission, on essaiera.
La Scottish National Gallery, on essaiera de faire une émission. Kunsthalle de Karlsruhe. Voilà. Et je pense que ça sera une très belle expo autour de l'autoportrait. Hein. Le carton est très bien. On y voit Jameau, je crois. Et l'excellent peintre.
Je vois Gérald Pascal trépigner d'impatience. Allez, on va mettre le blues des canuts. Non, je plaisante. Pascal est d'une bonhomie et d'une sérénité.
Et enfin, pour finir, jamais 203.
Stupéfiante.
Dernière chose, un petit vernissage le 17 mars, donc c'est jeudi. C'est-à-dire demain.
Pour Didier Numédros,
c'était vendredi dernier. À 18h30, alors oui, allez voir encore Didier
Numédros. J'en ai parlé sur le blog. Jean-Louis Mandon, je ne l'avais pas assez annoncé à l'antenne.
Alors là, c'est dans le 12 rue de Brest, J'émotion, Jean-Pierre Verdier. Il était venu ici accompagné de Laurence Loutre-Bardier, une certaine émission photographe, La Dernière Chambre. Prémisse d'immortalité, 40 ans de psychiatrie. Om Mani Padme Hum, exposition de peinture, donc de Jean-Pierre Verdier, vernissage demain. À 18h30, à J'émotion, 12 rue de Brest, Lyon 2e. Et pour finir, je suis lecteur du 1 depuis un certain temps et je vous recommande d'acheter le dernier numéro qui vient d'être en kiosque aujourd'hui.
Sur
la francophonie, une idée neuve. Et c'est intéressant toujours à lire, ça donne à réfléchir. Et il y a des très bonnes rubriques, notamment celle de Joran Gerner, dont je ne me lasse pas. Des poèmes, on redécouvre des artistes, c'est très bien illustré et c'est passionnant. Et c'est fini.
Isa, un mot de la fin, non?
Bon, merci beaucoup.
De rien.
De m'avoir accueilli.
C'est très bien.
Et à la semaine prochaine.
Alors, non, 23 mars. 23 mars, c'est pause. Rendez-vous
donc à la radio, une émission spéciale sur la voix à la radio.
Avec Agnès Auger, Vox Thérapeute.
Ça va être intéressant.
Encore beaucoup de choses à venir. Et puis, on va creuser ça, Gérald, le fait que Isa fasse des prises de son un peu partout. On va lancer, ça va être super. Sinon, Isa, si vous souhaitez le retrouver, c'est sur YouTube. Sur la chaîne.
YouTube,
il y a une chaîne.
Il y a une chaîne, effectivement,
bon, on mettra le lien pour tout ça. Gérald, l'après-midi est encore à continuer, et puis peut-être qu'il faut rester chez soi parce qu'il pleut, donc écoutez les programmes, notamment tout de suite Pascal avec le Blues et Canu, et puis ne manquez pas à 18h l'émission prodigieuse, stupéfiante et géniale, le méga combi, animé notamment par Olivier, qui nous a rendu un fier service.
Et on le remercie beaucoup.
Et ouais, il nous a beaucoup aidé. Merci Olive, merci Combi pour nous avoir permis de discuter avec Martin Barnier. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu et rendez-vous dans 2 semaines, et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, ne sortez pas trop, il pleut. Ciao tout le monde.